nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Devaux.
Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission consacrée au territoire et à la France décentralisée. Pour nous présenter ce thème, à mes côtés, Laurence Lemouzy, journaliste à Canal Académie, qui vous présentera par la suite des émissions en relation avec les territoires. Laurence Lemouzy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de la revue Pouvoirs locaux de l'idée, l'Institut de décentralisation, qui est un think tank dédié à l'action publique territoriale. Et vous êtes également directrice pédagogique de l'ISMAP, qui est un établissement d'enseignement supérieur dédié aux métiers de la sphère publique. Alors parlez-nous un peu des territoires. Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots en quoi cela consiste ?
Alors les territoires, c'est une histoire aussi de géographie, d'histoire tout court, mais aussi c'est un vocable juridique, administratif. On peut les associer aux collectivités territoriales. Que sont les collectivités territoriales ? Ce sont ce qu'on appelle communément les régions, les départements, les communes. Si on adopte un langage plus juridique, on parlera de conseils régionaux, de conseils généraux et de communes. Par exemple, les structures intercommunales, un mot un peu barbare, les établissements publics de coopération intercommunale, qui sont des regroupements de communes, ne sont pas des collectivités territoriales. Ce sont tout d'abord nos trois échelons, région, département, commune.
Alors dites-nous où nous en sommes aujourd'hui avec les réformes actuelles.
Alors c'est vrai que nous rentrons dans une troisième phase de la décentralisation et donc de l'histoire des territoires, si on reste dans l'actualité immédiate. En 82, c'était l'acte 1, les fameuses lois de décentralisation, Mauroy de Fer. L'acte 2 de la décentralisation, qui avait été porté à l'origine par Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, date de 2003-2004, une réforme un peu inachevée que le gouvernement actuel entend reprendre. Et c'est en ce sens qu'on l'appelle possible acte 3, une réforme de la carte territoriale française, des institutions territoriales. On parle de fusion de certaines régions, de suppression des départements, une question qui est là dans le débat depuis de très très nombreuses années, de répartition nouvelle des compétences avec la volonté de clarifier et de savoir sur le territoire qui fait quoi, dans un souci aussi de rationalisation, à la fois sans doute de la dépense publique, mais aussi des procédures de décision à l'échelle des territoires, c'est-à-dire du local.
Alors le thème que nous allons aborder maintenant est les nouvelles réalités territoriales dans l'éducation et l'enseignement. Alors, on sait bien que la rentrée scolaire et universitaire occupe chaque année le ministère de l'Éducation nationale et les services des rectorats. Sont-ils pour autant les seules organisations publiques à se préoccuper des établissements scolaires et des campus universitaires ?
Alors effectivement, nous avons choisi pour entrer dans cette thématique des territoires d'y entrer par la porte de l'éducation et de l'enseignement parce que s'il y a bien un thème, une politique publique que l'on associe volontiers à l'État, c'est bien l'éducation et l'enseignement supérieur. D'ailleurs, on parle de l'éducation nationale. Or, on va le voir, il ne faut pas oublier que l'éducation, l'enseignement supérieur et même la recherche sont de plus en plus l'affaire aussi des collectivités territoriales. Nous sommes en France dans le pays de la diversité, dans le pays des provinces, et on va voir qu'un nouveau mode d'action publique qui concerne l'éducation nationale, l'enseignement est à l'œuvre dans chacun de nos territoires.
On parle aujourd'hui du nouvel ordre éducatif local. Qu'en est-il ?
Alors, depuis le début des années 80, les établissements scolaires du second degré, les collèges, les lycées, mais aussi les universités, connaissent des bouleversements institutionnels assez profonds qui sont caractérisés par un rôle de plus en plus important joué par les collectivités territoriales. Alors, prenons quelques références en termes de date, quelques exemples. Depuis 1985, les collèges et les lycées sont rattachés à une collectivité territoriale, les collèges au département, les lycées à la région. Et on a confié à ces deux collectivités territoriales, à ces deux niveaux, la gestion matérielle et financière. Ce sont les régions et les départements qui entretiennent les locaux, les bâtiments liés à ces collèges et à ces lycées. Je parlais de l'acte 2 de la décentralisation. Il est allé encore plus loin. Il a provoqué ce que certains appellent dans le domaine de l'éducation une évolution à bas bruit. On se souvient sans doute des manifestations qui avaient eu lieu dans nos territoires, manifestations qui étaient liées au transfert des personnels techniques, c'est-à-dire que le personnel qui entretient les collèges et les lycées, qui assure quelquefois la surveillance, le nettoyage des locaux, appartenait à la fonction publique d'État. Et l'acte 2, transférer ce personnel aux collectivités territoriales, donc aux régions et aux départements. Mais on est allé au-delà, quand on dit une évolution à bas bruit, ça c'est ce que l'on a entendu. Il y a d'autres réformes qui sont passées avec l'acte 2 qui ont fait moins de bruit. Et surtout, les collectivités territoriales sont devenues partie prenante de la politique éducative des collèges et des lycées. Par exemple, je ne suis pas sûre qu'on soit tous bien au fait que régions et départements définissent aujourd'hui des stratégies éducatives, de véritables programmes opérationnels qui vont largement au-delà de la gestion matérielle, financière des bâtiments scolaires et des personnels techniques.
À vous écouter, la question de la réussite scolaire serait l'affaire de tous et plus seulement de l'État.
C'est exact. La question aujourd'hui de la réussite scolaire, elle est au cœur des politiques d'aménagement du territoire définies par les collectivités territoriales. On pourrait prendre quelques exemples liés notamment à ce qu'on appelle donc l'acte 2 en 2003-2004 de la décentralisation. Certaines régions n'hésitent pas à s'affirmer comme région de la connaissance. Leur programme, quel est-il en matière d'éducation ? Améliorer les conditions de vie des lycéens, contribuer à élever le niveau de formation et de culture des lycéens. Donc on touche là, on commence à rentrer dans le domaine également de la pédagogie, des méthodes pédagogiques, réduire les inégalités d'accès à la formation, favoriser l'éducation à la citoyenneté. Pour vous donner quelques exemples, prenons celui de la région Pays de la Loire. 400 millions d'euros, c'est le budget global que cette région alloue pour ses investissements en faveur des lycées. Par exemple, ça, les 400 millions d'euros pour la période 2006 à 2010. Quelques chiffres, la région Pays de la Loire est propriétaire de 125 lycées publics et elle soutient également 144 lycées privés sous contrat d'association. Donc, bien sûr, l'action des collectivités territoriales varie de l'une à l'autre. Certaines encouragent, par exemple, la gratuité des manuels scolaires. On entend tout cela en période de rentrée. D'autres, ce sera la pratique sportive ou encore l'approfondissement des échanges internationaux avec même des primes à la mobilité, des aides, des bourses à la mobilité des étudiants. Dans plusieurs départements, on a des aides financières qui sont même octroyées aux inspections académiques. Donc au service de l'État, à charge pour eux de les transformer en heures supplémentaires pour le soutien des élèves. Donc un département peut tout à fait transférer, allouer des moyens à une inspection académique, service déconcentré de l'État, et c'est l'État qui va être l'opérateur d'une quasiment une commande passée par une collectivité territoriale.
En est-il de même du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche ?
C'est un même mouvement qui s'opère effectivement dans ces domaines-là. Les collectivités territoriales n'ont pas en fait la compétence juridique pour intervenir, mais en revanche rien ne les empêche d'intervenir. Et il est vrai que de ce point de vue-là, les élus locaux se sont vite emparés de ces deux politiques publiques parce qu'elles représentent un atout important pour leur territoire. Avoir un réseau universitaire et des pôles de recherche dynamiques pour une région, c'est un atout dans la compétition économique ou dans la compétitivité des territoires.
Comment se traduit cette participation ?
Alors, elle prend des formes multiples, comme le financement des grands équipements de recherche, celui des contrats doctoraux, le soutien à la construction de campus, même le financement de projets de recherche. Il faut savoir que sur la période 2003-2006, les conseils régionaux ont consacré en moyenne 2,6% de leur budget global à la recherche. Ça représente à peu près 7,50 euros par habitant. J'entendais récemment le porte-parole de la conférence des présidents des universités qui évoquait qu'à l'avenir, il entendait de plus en plus solliciter le financement des collectivités territoriales, notamment en matière d'enseignement supérieur et de recherche.
Pour quelles raisons cette intervention locale s'est-elle renforcée ?
Alors, Il y a eu un plan important, le plan Université 2000, qui a été lancé au début des années 1990. Ce fut une étape importante. On était là face à un état assez catastrophique, hein, des locaux universitaires, à une explosion des effectifs étudiants. Et à l'époque, le ministère de Lionel Jospin avait fait appel aux collectivités territoriales pour réhabiliter, hein, ces bâtiments, développer des sites universitaires un peu plus modernes, plus performants. Alors, l'appel d'ailleurs avait été entendu au-delà des espérances ministérielles. Les collectivités territoriales ont à ce moment-là investi massivement et c'est une implication qu'elles ne vont pas lâcher, qu'elles vont même poursuivre à l'occasion du plan suivant, le plan Université du troisième millénaire qui avait été lancé en 1998 par le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Claude Allègre.
L'Union européenne a-t-elle incité à l'investissement local ?
L'Union européenne, oui, a beaucoup incité à cet investissement local. La Commission européenne prône une économie de la connaissance qui est devenue une sorte de nouveau référent, hein, de l'action publique locale au tournant des années 2000. En particulier, les régions et les métropoles ont un rôle à jouer dans la promotion d'environnements qui sont favorables à l'innovation et aux échanges souvent entre universités et monde économique. C'est d'ailleurs le sens de la stratégie de Lisbonne lancée en 2000. On en entend beaucoup parler. Elle a une application concrète dans le domaine de la politique éducative locale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une bonne part des interventions locales s'opèrent via des cofinancements qui associent l'État, la Commission européenne et les institutions locales. Il y a souvent ces trois partenaires qui financent des projets liés à l'enseignement supérieur ou à la recherche.
Justement, les élus locaux dénoncent très souvent le déséquilibre qui existe entre l'État et les collectivités territoriales. Qu'en est-il réellement ?
Alors, il y a presque un double déséquilibre. D'abord, le premier, il concerne les collectivités territoriales entre elles, puisque l'interlocuteur de l'État, c'est d'abord le Conseil régional qui est leader dans cette négociation et les autres échelons infrarégionaux sont cantonnés à un suivi de ce que négocie la région avec l'État. Le second déséquilibre touche, vous l'avez souligné, la relation entre l'État et les collectivités territoriales parce que les collectivités territoriales doivent faire face à des services centraux ministériels qui restent tout de même des acteurs majeurs de la négociation. Donc la marge de négociation des échelons locaux est relativement réduite. L'État continue de donner le « là », mais l'implication des collectivités locales est quand même décisive parce que sans elle, bon nombre d'opérations ne pourraient pas se réaliser. Les financements manqueraient.
Dites-nous, quel est le rôle aujourd'hui des collectivités locales sur l'enseignement et la recherche ?
Alors, le rôle, on l'a vu, c'est un opérateur qui entretient des bâtiments, des campus, qui finance, qui va au-delà, hein, qui finance des projets de recherche. Aujourd'hui, il y a tout de même un certain nombre de questions sur l'évolution de ces interventions locales. Les régions et les départements vont-ils avoir demain encore les moyens d'investir dans des domaines qui ne sont pas directement de leurs compétences, hein. On est dans un contexte de tension sociale et donc de tension économique. Les départements sont fortement touchés par les investissements qu'ils doivent opérer dans le domaine de l'action sociale. Auront-ils encore demain les moyens de se consacrer à l'éducation ? Ce n'est pas sûr. En plus, d'autres questions plus générales se posent. Comment assurer une cohérence éducative nationale ? Si les initiatives fleurissent ici et là, comment concilier la diversité des situations territoriales avec des objectifs nationaux du service public de l'éducation ? Donc ces questions traduisent des tensions entre le niveau national et régional. Et d'ailleurs, de façon générale, le projet de loi auquel travaille actuellement le gouvernement tente à les, si ce n'est les gommer, mais en tout cas les atténuer. Et certains points de ce projet de loi vont sans doute aussi impacter les relations entre l'État et les collectivités territoriales en matière de politique éducative.
Merci Laurence Lemouzy d'être venue nous présenter cette thématique sur l'éducation. Je rappelle que vous allez présenter des émissions sur le territoire et la France décentralisée que vous pourrez bien évidemment suivre sur Canal Académie. Merci pour votre écoute. Et à bientôt pour une nouvelle émission sur les territoires.